qui désespère de faire aboutir sa contre-offensive, des armes à sous-munitions. Explication, les armes à sous-munitions, au simple, c'est des armes qui explosent en d'autres armes, c'est-à-dire c'est l'absolu contraire des frappes chirurgicales que la propagande nous vantait, notamment au moment des guerres en Irak. Ça fait plein de dégâts alentour, et notamment potentiellement dans les populations civiles. Les armes à sous-munitions, elles sont bannies par un traité international que n'ont pas signé les États-Unis, que n'a pas signé la Russie et que n'a pas signé l'Ukraine. Donc tout le monde est d'accord, sauf notamment les pays européens, le Royaume-Uni, l'Espagne. D'autres ont protesté. Question pour vous, Ziad Imam. Est-ce qu'on peut comprendre ces protestations, ces réticences, ou est-ce qu'après tout, il y a urgence d'aider l'Ukraine à finir la guerre et la fin justifie les moyens ?
Je pense que c'est plus la fin justifie les moyens, sachant qu'il faut arriver à définir de quelle fin on parle. Je pense qu'en ce qui concerne les États-Unis, le message principal, c'est nous sommes capables d'aller loin, le plus loin possible pour défendre l'Ukraine, y compris d'utiliser des armes qui ne sont pas forcément...
Pas d'utiliser directement, de fournir des armes.
De fournir des armes, bon...
Sinon, on est en guerre mondiale.
C'est toujours la petite nuance dans ce conflit, c'est-à-dire qu'on fournit des armes qui sont fabriquées aux États-Unis, qui seront utilisées par des forces ukrainiennes. Donc je pense que le message est très politique, c'est comme les Français qui annoncent qu'ils vont livrer des missiles intermédiaires, des deep strike missiles, etc. Ça, c'est le message numéro un. Et je trouve qu'il y a un message numéro deux de la part des Américains, qui est aussi de se ménager, je crois, des portes de sortie, enfin, pas des portes de sortie, des portes de discussion à terme avec la Russie. Et on l'a senti avec ces espèces de semi-discussions plus ou moins indirectes entre d'anciens responsables américains et d'anciens responsables russes. On le voit avec la discussion sur l'OTAN. Donc on voit bien que c'est un double. Du côté des États-Unis, en tous les cas, il y a à la fois le commitment militaire et le plus dur s'il le faut, et en même temps cette sensation que... Il faudra bien un jour discuter avec les Russes.
Oui, c'est ça. Alors, mais pourtant, une chose, Yann Morletto, au sein de l'OTAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les États-Unis décident, les autres exécutent?
Alors, pour l'instant, c'est encore un peu... Là, tout est en train de changer au sein de l'OTAN. Je veux dire, on a les fameux aussi états, ce qu'on appelle l'état pivot. Il y a même la France qui a changé un petit peu sa position. En décembre 2022, on avait un Macron qui disait non à l'entrée de l'Ukraine parce que... À ces moments-là, il fallait ménager Poutine. Aujourd'hui, je pense que Macron est très déçu de ce qu'il a obtenu pour Poutine, c'est-à-dire rien. Et donc, voilà, il se positionne un peu plus du côté de Pologne, Pays-Baltes, en disant pourquoi pas, on peut l'envisager. C'est un moment, voilà, où les équilibres donc risquent de changer au sein de l'OTAN. Et il faut voir quelle sera, comme disait mon confrère, la porte de sortie. Parce que la faire entrer, finalement, je pense que la solution, ce sera une solution à l'israélienne. Donc, continuer à aider l'Ukraine de façon renforcée, mais ne pas, au moins tant que la guerre ne finit pas, envisager le fait qu'il rentre dans l'OTAN. Pour l'instant, c'est envisageable, parce que quand on voit les aides qui ont été données, si on regarde par rapport au produit intérieur brut, en fait, 0,07 du produit intérieur brut américain est destiné à l'aide à l'Ukraine, 0,05 du côté européen. Donc, on pourrait continuer longtemps.
D'accord.
Pour soutenir cette guerre, c'est peut-être la solution qui va être envisagée. Après, voilà.
On va voir. En tout cas, on verra à la fin de ce sommet. Alors, Claude, on voit que cette livraison d'armes, ça fait parler partout dans le monde, et notamment en Chine.
Absolument. Et on va voir ce qui est à la fois un paradoxe et une constante. C'est-à-dire que la Chine, qui n'est pas une démocratie, donne régulièrement des leçons de pondération internationale aux États-Unis, qui sont une démocratie. Entendons donc Mme Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Le transfert irresponsable d'armes à sous-munitions peut mener à des problèmes humanitaires. Nous devrions gérer de manière équitable les préoccupations humanitaires et les besoins militaires et sécuritaires légitimes et maintenir une attitude prudente et retenue à l'égard du transfert des armes à sous-munitions. Les parties concernées ne doivent pas mettre de l'huile sur le feu, intensifier le conflit et aggraver la crise ukrainienne.
Alors si on est occidentalocentré, on prend pas ça au sérieux. Juste une chose, Farah Talani, on a peut-être tort d'être occidentalo-français, centré. Quand vous étiez journaliste en Irak, vous aviez révélé l'utilisation par les Américains d'armes non conventionnelles, à l'uranium appauvri notamment, pour mater une révolte dans votre ville, si j'ose dire, la ville de votre père, Fallujah. Est-ce qu'il y a une constante chez les États-Unis dans l'utilisation de forces excessives, non conventionnelles, contre des populations qui intéressent moins.
Mais c'est exactement à ça que j'ai pensé quand j'ai entendu la nouvelle. Déjà, je trouve que c'est très cruel d'envoyer ces armes-là. Il faut juste rappeler que ces armes visent en priorité les civils. 97% des gens qui sont touchés par les armes à sous-munitions sont des civils. C'est acté, ça a été le cas en Irak. Vous l'aviez dit tout à l'heure, ce sont des conteneurs qui contiennent des missiles, des bombes explosives et qui parfois n'explosent pas et restent à long terme. Pour revenir à Fallujah, les armes qui ont été utilisées sont non seulement toxiques, l'uranium appauvri a été déversé en masse par tonnes sur Fallujah, le phosphore blanc aussi, et dans cette enquête que j'avais réalisée en 2010, donc c'est pas d'hier, on a constaté une augmentation des cancers, on a constaté des naissances de bébés déformés. Les rares études indépendantes qui ont été faites ont révélé que ce qui s'est déroulé à Fallujah était bien plus violent qu'Hiroshima. Il faut se rendre compte de ce que c'est, ces armes non conventionnelles. Et on peut même se poser la question de ces armes à sous-munitions, à ce qu'elles contiennent également de l'uranium appauvri. Ce sont des dossiers militaires secrets, on ne sait pas ce que contiennent ces armes.
Justement, pour ça, Ziadiman, on voit aujourd'hui les Américains décider à livrer ces armes-là à Kiev, au sein de l'OTAN, donc ils ne sont pas tout seuls, mais c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que par exemple l'Europe a les moyens de dire, ben non, faut pas les livrer, et on vous empêche de les livrer?
Ben non.
Ouais, c'est
pas
ça,
les
oui.
moyens, ils ont pas. On sait très bien qui est le patron de l'Alliance, on sait très bien qui est le patron de l'OTAN. C'est toute la position française, l'ambiguïté de la position française par rapport à l'OTAN historique. On est dedans, mais on n'est pas dedans, mais que ça. Mais la réalité du rapport de force, la réalité de l'investissement, la réalité du commitment financier est américain. Bon, les Européens ont promis d'augmenter leur participation aux dépenses militaires. On n'a jamais autant dépensé d'argent sur les dépenses militaires qu'en Europe que depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, sur les armes de type... juste un mot, sur les armes, c'est les Américains, ils ont théorisé, hein, ça, c'est le maximum force, c'est l'effroi et la fureur, ce qu'ils ont fait à Bagdad, ce qu'ils ont fait au Laos, ce qu'ils ont fait au Vietnam, les bombardements en Napalm, donc ça fait partie de leur culture militaire. Pour eux, c'est cynique à dire, c'est un instrument de guerre qu'ils utilisent depuis qu'ils sont une puissance militaire, sans beaucoup... Hiroshima, ouais. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont... brutalement changer.
Et là,